Homme de douleur, je ne vous demande pas si vous savez où est la citation, d'autant plus que je l'ai marquée. Quand Guillaume m'a proposé de présenter un sujet, c'était un sujet qui me touchait à cœur et que j'ai eu envie de partager, pas de faire le tour de la question parce que je crois que c'est hors de notre portée, mais simplement, comme Pierre vient de l'exprimer, de se trouver un moment devant celui qui a fait l'œuvre de l'expiation, pour vous peut-être, en tout cas pour moi. Vous m'arrêtez si... Alors, comment ça marche pour le défilement? L'homme de douleur ou le serviteur souffrant d'Ésaïe. Je dois vous avouer que c'est peut-être la première fois de ma vie que je lisais Ésaïe en entier. J'avais picoré beaucoup à beaucoup d'endroits, mais j'y ai trouvé des trésors. Voilà le plan que je vous propose. Le serviteur souffrant. On va voir ce que Ésaïe nous en dit, à la fois comme prophète et en même temps à travers la prophétie qu'il nous présente. On va essayer de s'en approcher au travers de quatre clés. Ces quatre clés vont nous conduire à quatre champs. Ces quatre champs, nous allons faire un focus sur le quatrième. Vous allez voir pourquoi. Ce quatrième champ va nous conduire à parler, à être occupé du serviteur de douleur, dans tout ce qui présente concernant l'œuvre de notre salut. Alors, je ne vous dirai pas qui c'est, mais je pense que vous avez une idée sur la question. Et c'est merveilleux de voir comment la parole nous a présenté celui qui est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Le serviteur de douleur qui va nous amener à jeter un coup d'œil, je dirais avec un saint respect, sur quelle douleur, quelle souffrance. Un sujet, je crois, dont on peut s'approcher, je dirais, sur le plan spirituel que sur la pointe des pieds, en sachant que ce sont tes souffrances, ces souffrances, mes souffrances, les souffrances qu'il a portées, qui me donnent la paix, la joie, le salut, l'assurance, tout ce que j'ai en Jésus, je l'ai à travers ce qui a été payé par lui pour moi. On verra aussi le fruit. Six fruits, on peut en trouver. Et je crois que ce fruit, nous en connaissons déjà quelque chose. Ésaïe, voilà la photo que j'ai trouvée d'Ésaïe, donc peint par Michel-Ange dans la chapelle Sixtine en 1509. Et ce qui est beau dans cette photo, ce qui m'a touché, c'est qu'on voit que Ésaïe est toujours lié à la prophétie du livre. Tel que vous le voyez, c'est donc la chapelle Sixtine qui a été rénovée il y a quelques années. Enfin bref, ce n'est pas le sujet le plus important. Mais Ésaïe est toujours présenté comme étant celui qui a parlé, qui a présenté la pensée de Dieu. Mais d'ailleurs, Ésaïe, qu'est-ce que ça veut dire? Alors en hébreu, ça se prononce Yeshayahu. Vous irez au ciel même si vous ne le savez pas. Mais là, sa composition est intéressante parce que ça nous donne quand même une indication sur son service. Yesha qui se traduit par il sauve ou il est salut. Ya comme dans Alléluia, louer Dieu, psaume 104. Hein. C'est une forme abrégée du tétragramme Dieu. Et ou qui est le pronom personnel lui. Ce qui compilé nous donne le nom d'Ésaïe est donc Théophore. Et signifie lui, Dieu sauve ou lui, Dieu est sauveur. Théophore, je le dis, ce n'est pas pour faire le savant, mais ça veut dire qui porte Dieu, c'est-à-dire c'est un nom propre qui contient celui de Dieu, comme par exemple Gabriel, Emmanuel, Michel, Samuel, Raphaël et tous les prénoms qui sont en elle et bien d'autres aussi. D'emblée, Ésaïe nous est présenté comme nous parle de celui qui, Dieu, lui sauve. Mais il va sauver comment? Et il va nous le présenter à travers le premier livre qui nous dit qu'il est fils d'Amoth, qui veut dire fort, puissant, courageux. Voilà, je vous ai mis le strong. Et qu'il a vécu au jour d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. C'est Ésaïe 1, verset 1er. Soit approximativement sur une période qui couvre entre 60 et 70 ans, 75 selon les historiens, quelque chose de cet ordre-là. Je vous propose un plan du livre. Il en existe plusieurs autres. Voilà celui que je vous propose. Il a au moins l'avantage d'être simple. Dans la première partie, Dieu s'apprête à juger et nous présente le contexte historique et la montée en puissance de la Syrie. Dans la deuxième partie, Dieu réconforte son peuple au milieu des souffrances occasionnées par le jugement. première partie qui couvre les chapitres 1 à 39, la deuxième partie les chapitres 40 à 66. La première partie, chapitres 1 à 12, ce sont des prophéties au sujet de Judas, 13 à 27, des prophéties concernant les nations, donc autre pays que Judas, 28 à 35, avertissements prophétiques sur Éphraïm et Judas, 36 à 39, une parenthèse historique sur l'invasion de Sanchérib, la maladie d'Ézéchias. Découpage qui est un peu à la louche, mais que j'ai trouvé, je lui ai trouvé l'avantage de la simplicité. Dans la deuxième partie, les chapitres 40 à 48 nous présentent la grandeur et la transcendance de Dieu, c'est-à-dire la capacité d'aller au-delà de ce qui est perceptible et des possibilités de notre intelligence, de notre compréhension. 49 à 57, voilà le sujet qui va nous intéresser en particulier, les souffrances du serviteur de l'Éternel. Et 58 à 60, des exhortations prophéties finales après le retour de l'exil. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais 39 et 27, on retrouve le même nombre de chapitres que les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. 39 livres dans l'Ancien Testament, 27 livres dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'il faut y voir un signe ou pas? Je souligne simplement le fait en passant. Un peu d'histoire. La plus ancienne version connue du livre d'Ésaïe fait partie des manuscrits de la mer Morta, manuscrit retrouvé à Qumran en 1947. Seul le livre d'Ésaïe a été retrouvé dans son intégralité, sous la forme d'un manuscrit du IIe siècle avant Jésus-Christ, qui est connu sous le nom de « Grand rouleau d'Ésaïe ». En cherchant sur Internet, j'ai trouvé qu'on pouvait même avoir des copies extrêmement fidèles. C'est aux alentours de 80 000 $. Si quelqu'un, ça intéresse quelqu'un, c'est possible de l'acheter. Mais il faut un peu de temps pour l'avoir. Ce livre contient l'intégralité des 66 chapitres du livre d'Ésaïe, que nous connaissons sous forme de chapitres aujourd'hui, et a été copié approximativement vers le IIe siècle avant Jésus-Christ. Il est un des plus anciens textes de la Bible hébraïque connus à ce jour. Et à ce sujet, j'ai une pensée d'un historien bibliste qui s'appelle Michael Langlois, qui est chercheur au Centre français à Jérusalem, qui nous dit que si les manuscrits de Qumran sont à ce point importants pour nous, c'est qu'ils constituent à ce jour les manuscrits bibliques les plus anciens dont nous disposons. Avant Qumran, la plus vieille Bible hébraïque que nous connaissons datait du Xe siècle après Jésus-Christ. C'est le Codex d'Alep dont on a une version intégrale. Évidemment, il existe bien auparavant d'un tas d'extraits, de copies, de choses, mais jamais de texte intégral. Là, nous avons à Qumran l'intégralité du livre d'Ésaïe, qui, soit dit au passage, a démontré la capacité, la fiabilité des textes qui avaient été transmis de génération en génération par les copistes rabbiniques. Voilà. Dans sa globalité, le livre d'Ésaïe est considéré comme le livre prophétique. C'est celui qui apporte le plus de thématiques différentes. Mais qu'est-ce que c'est qu'une prophétie? Et qu'en dit la Bible? Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Selon l'expression d'un frère qui m'a transmis sa définition, avec la mention « ab omnibus darbisti receptus », c'est celui qui transmet la parole de Dieu sans la commenter ni la développer. Il est bouche de Dieu, rien que bouche de Dieu, sans rien rajouter de lui-même. C'est-à-dire, il reçoit et il transmet. Mais qu'en dit la Bible? Vous ne serez pas étonné de ma référence, la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l'Esprit-Saint. Ce même verset nous dit que la prophétie est une lumière qui éclaire les ténèbres, que sa révélation est progressive, qu'elle n'est pas une fin en soi, qu'elle est temporaire, que sa compréhension est partielle, elle émane de Dieu, c'est Dieu qui parle par le Saint-Esprit et par des moyens humains d'une piété reconnue de Dieu. Chaque prophétie fait partie d'un ensemble global dont Jésus-Christ est le centre et la clé. La clé, ben, Ésaïe nous propose quatre clés pour entrer dans la compréhension prophétique. J'aurais pu citer tous les passages, ça aurait été très long, parce qu'il y a beaucoup de versets. Vous aurez le diaporama, chacun peut le rechercher pour son profit. En tout cas, le profit a été très, très positif pour moi. La première clé qu'on trouve en Ésaïe se trouve en Ésaïe 7. C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voilà ce signe. La Vierge concevra et enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. Ésaïe 7, verset 14. Cette première clé, nous la retrouvons suffisamment claire pour servir de preuve à Matthieu 1, 22 et 23. Or, tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur a dit par le prophète disant, voici la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel. Transcription littérale de chapitre Ésaïe 7, verset 14, ce qui est interprété est Dieu avec nous. Il y a donc un signe formel, extraordinaire, qui a été donné au peuple d'Israël par la naissance de Jésus. Ils l'ont reçu, ils ne l'ont pas reçu, ça en sort de ma présentation. Mais je crois que vous avez une réponse vous aussi. La deuxième clé que nous trouvons au chapitre 9, verset 6, nous présente la naissance d'un fils, un enfant. L'enfant reçoit quatre noms. Il est merveilleux conseiller, il est Dieu fort, il est Père du siècle et il est Prince de paix. Chacun de ces noms se compose de deux mots. Ce ne sont pas des noms propres, mais des titres destinés à exprimer ce qu'il est réellement. Merveilleux conseiller, c'est-à-dire qu'il est prophète infaillible par excellence. Dieu fort, c'est que Dieu joint à l'esprit de conseil, l'esprit de force, la puissance pour exécuter ses desseins. Il est Père du siècle, ou Père à toujours, ou Père éternel, selon les traductions. C'est-à-dire qu'un roi est envisagé comme le père de son peuple, l'éternité tire de lui son origine, ce qui implique la préexistence éternelle de celui qu'Ésaïe va nous présenter comme Messie, envoyé de Dieu. Il est prince de paix, il réalise en sa personne les deux types les plus glorieux de la royauté théocratique, c'est-à-dire qui repose sur un Dieu qui domine, celui de conquérant et celui de pacificateur. Tout à la fois vrai David et vrai Salomon. La théocratie, dont je citais à l'instant, c'est un régime politique dans lequel le pouvoir est exercé par ceux qui sont investis de l'autorité de Dieu. La troisième clé, chapitre 11e, nous présente le rejeton de David, fils d'Isaïe. J'ouvre une petite parenthèse. Selon les traductions, on va trouver Ésaïe avec un E majuscule ou Isaïe avec un I majuscule. Selon que ce sont plutôt les bi-traductions protestantes, traductions catholiques, que ce sont les sources rabbiniques, l'un ou l'autre désigne la même personne. Le rejeton. Sur le trône d'Isaïe, mort en apparence, apparaît un rejeton porteur de vie et d'espérance. Il est monté devant Dieu et a porté en abondance le fruit de l'Esprit. Ésaïe 11, verset 2. Le rejeton, la racine, postérité de David, telle que nous le retrouvons au verset 1er, au verset 10, et en Apocalypse 22, 16, sont les noms que porte le Seigneur Jésus en rapport avec la bénédiction d'Israël et du monde. La quatrième clé. À partir du chapitre 40e, Dieu appelle à la consolation de son peuple par une voix criante dans le désert. Versets 2, 3, 6 et 9. Cette voix interpelle le peuple à deux niveaux. Comme serviteur élu mais défaillant, le peuple est témoin de l'Éternel vis-à-vis des nations. Mais le peuple est aussi appelé à reconnaître Jésus-Christ, seul vrai serviteur élu qui a accompli la volonté de Dieu. Cette voix criante dans le désert, par laquelle Dieu renoue par sa grâce le lien qu'avait rompu l'infidélité du peuple, nous reconnaissons la voix de Jean le Baptiseur, qui annonce et prépare le chemin du Seigneur. Ce chapitre 40 forme l'introduction de la grande prophétie qui couvre les chapitres 40 à 66. Le ton général de cette prophétie ressort dès les premiers mots, c'est celui de la consolation. À l'affliction présente va succéder le plus glorieux salut. On trouve dans les versets 1 à 11. Ce salut est assuré puisque celui qui le promet est le Dieu infiniment grand, devant qui les dieux des païens ne sont que néants, chapitre 40, versets 12 à 26, qu'Israël se console et reprenne confiance, c'est le message des versets 27 à 31 du chapitre 40. Nous avons donc quatre clés, un signe, un enfant ou un fils, un rejeton, un serviteur. Quatre clés qui ouvrent la porte de la prophétie dans Ésaïe en annonçant la venue d'un homme qui accepte la souffrance jusqu'à la mort pour en sauver d'autres. Qui est cet homme? Essayons de répondre à cette question en regardant les cantiques du serviteur d'Ésaïe, appelé aussi chant du serviteur ou encore poème du serviteur, qui forme un ensemble de quatre passages dans lesquels le serviteur, appelé par Yahweh, a apporté la lumière aux nations et l'objet du mépris des hommes. Mais qui est donc ce serviteur? Question qui reste posée pour les Juifs aujourd'hui. J'ai trouvé des éclairages magnifiques sur des sites internet de Juifs messianiques qui ont des réponses extraordinaires. Les quatre chants d'Ésaïe sont chapitre 42, 1 à 9, chapitre 49, 1 à 7, chapitre 50, 4 à 11, et chapitre 52, verset 13 à 53, verset 12. Chacun pourra les lire. On aurait pu les lire, mais ça aurait quand même pris pas mal de temps, et en plus, ça risque de nous faire un petit peu perdre le fil. Les quatre chants d'Ésaïe sont donc quatre chants qui vont nous permettre de voir si les quatre clés que nous avons vues vont dépeindre et éclairer nos yeux qui est ce serviteur souffrant. L'interprétation dans le judaïsme, deux chants présentent le thème de la lumière qu'apporte le serviteur aux nations, chapitres 42 et 49. Lumière pour les nations, or la goyim en hébreu. C'est un message divin adressé aux tribus d'Israël elles-mêmes et pas seulement aux nations selon le sens traditionnel, c'est-à-dire les gentils. Il y a donc un message qui est à la fois pour les nations, c'est certain, mais un message qui s'adresse aux juifs, la nation juive, comme étant le porteur de ce message. La consolation du peuple d'Israël, serviteur de Dieu, apparaît indissociable de sa vocation messianique. Et je crois que c'est une notion qu'il faut importante à saisir dans ce sens que Ésaïe 40 nous présente ce message de consolation, mais la finalité de cette consolation, c'est un retour vers l'Éternel qui va lui permettre d'accomplir la mission que Dieu lui a confiée, qui est messianique. La consolation du peuple d'Israël, serviteur de Dieu, apparaît indissociable de sa vocation messianique. Là, il y a un doublon. Mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple Israël. Donc, par l'Esprit qui est en lui, en Luc 2, le vieillard Siméon devient prophète. Sa pensée s'élève jusqu'à ce salut que Dieu a préparé pour tout le peuple et que tous verront. Chaque mot de ce beau cantique a une signification profonde. Maintenant, comme le dit Siméon, que ta parole est accomplie, au verset 26, que mes yeux ont vu ton salut, laisse aller ton serviteur. Tu délies toutes les servitudes de la vie. Tu me mets en liberté pour que le serviteur puisse s'en aller jouir de la pleine possession de la lumière et de la paix. Et je vous donnerai aussi Cette citation d'Ésaïe 46, Je mets en Sion le salut et sur Israël ma gloire. Vraiment le sentiment qu'Israël est passé à côté de quelque chose en se privant de cette bénédiction extraordinaire d'être le porteur du message du salut aux nations. Il aurait fallu que dans son ensemble, il le reçoive déjà par lui-même. Ton salut, ce grand salut est destiné à tous. D'une part, il est lumière pour éclairer les nations qui sont plongées dans les ténèbres et les préparer à recevoir ce salut. Mais d'autre part, il est la gloire du peuple d'Israël qui, tout en ayant part à ce salut, aura l'insigne honneur de l'avoir donné au monde. Selon cette citation d'Ésaïe 46 que je viens de vous donner, je mets en salut le Sion sur Israël, ma gloire. Interprétation dans le christianisme. Les quatre cantiques trouvent leur prolongement dans le Nouveau Testament. Les quatre évangiles reprennent à leur tour le thème du serviteur souffrant et voient dans la passion et la résurrection de l'homme de douleur la réalisation de la prophétie. L'évangile selon Matthieu revendique à cet égard son enracinement dans l'Ancien Testament en répétant presque mot pour mot en Matthieu 12 les quatre versets initiaux du premier cantique dans une longue citation. En 1 Corinthiens 15, Paul se réfère à Ésaïe 53. Dans la première épître de Pierre, aussi, nous trouvons la même pétition. L'emprunt au serviteur souffrant porte davantage sur la signification du malheur individuel ou collectif. Passage qui commence par vous, serviteurs ou vous, domestiques, avec le rappel d'Ésaïe 53. Les quatre chants d'Ésaïe vont nous éclairer pour découvrir qui est ce serviteur selon le conseil de Dieu. Le premier chant. Dans le premier chant, chapitre 42, 1 à 9, le prophète insiste sur le silence et la discrétion du serviteur. Ce n'est pas la puissance qui caractérise le premier chant, mais l'élection et l'humilité. Il ne criera pas, il ne haussera pas la voix, on n'entendra pas sa voix, il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas le lumignon qui fume à peine ou la mèche qui faiblit. Il fera paraître devant Dieu toute la fidélité. Le deuxième chant décrit l'épuisement et l'humiliation du serviteur et révèle que le secret du serviteur réside dans son élection et son appel. Lui qui a été formé dès avant la naissance, qui a été appelé dans le sein de sa mère, proclame « Mon Dieu sera ma force ». Ésaïe 49. Le troisième chant, au chapitre 50, versets 4 à 11, le serviteur apparaît maltraité, mais justifié par Dieu. Cet aspect douloureux de sa mission sera explicité et approfondi dans le quatrième chant, explicité, c'est-à-dire énoncé formellement, complètement, rendu plus clair. Cette justification par Dieu qui constitue l'appui qui permet au serviteur d'espérer contre toute espérance, de persévérer malgré la souffrance. Il dit au verset 5, « Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui frappaient, mes joues à ceux qui arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. » Et le quatrième chant, celui sur lequel on fera le focus, présente le serviteur non plus seulement comme l'élu qui met sa confiance en Dieu, non plus seulement comme l'homme qui préfère être fidèle à Dieu quitte à affronter la souffrance, mais comme celui dont la souffrance devient un instrument de salut pour tous. Il est méprisé, délaissé des hommes, homme de douleur, sachant ce que c'est que la langueur. Qu'est-ce que c'est que la langueur? La langueur, c'est le dépérissement intérieur. Quelqu'un de qui on cache sa face, il est méprisé, nous n'avons eu pour lui aucune estime. Lui a porté nos langueurs, s'est chargé de nos douleurs. Nous, nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Nous l'avons estimé. Voilà la valeur qu'on lui a donnée. Il a été blessé pour nos transgressions. C'est-à-dire chaque fois qu'on a passé de l'autre côté de la loi divine, il a été meurtri pour nos iniquités, tous nos actes de propre volonté. Le châtiment que méritait notre paix et que notre paix justifiait a été sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Oh. Qui est ce serviteur du quatrième Jean? Ce serviteur souffrant n'est pas Israël, comme quelques-uns se plaisent à le croire, car ce peuple rebelle n'a pas reconnu le Messie. Ce n'est pas non plus Ésaïe, car celui-ci se range parmi les bénéficiaires du sacrifice du Messie, nous, verset 26. Ésaïe présente le serviteur à la fois comme sacrificateur et comme sacrifice, marchant sur la voie douloureuse de la substitution volontaire. Il a choisi de prendre notre place. Seigneur, tu es allé jusque-là. C'est bien Dieu lui-même qui rachète Israël en la personne du Messie. Ce quatrième chant est l'étape de la victoire finale de la justice de Dieu et du serviteur. Ce quatrième chant nous parle de souffrance, de victoire. Quelle étrange victoire, remportée dans l'abaissement et l'obéissance jusqu'à la mort et la mort de la croix. Je ne vous demande pas si vous savez où se trouve ce verset. Voilà la cause première, essentielle, seule convenable pour Dieu, car il convenait pour lui, à cause de qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, qu'amenant plusieurs fils à la gloire, il consomma le chef de leur salut par des souffrances. C'est pourquoi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom devant lequel tout se prosterne et confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi. Jésus a vécu la vraie signification des quatre chants, en franchit les quatre étapes et devient l'image parfaite du serviteur de Dieu tel qu'Ésaïe l'avait présenté au peuple. Il montra que la quatrième étape n'est pas un pas en arrière, mais un pas en avant. Il a franchi cette étape par-dessus les limites étroites des explications et des théories humaines, qui ramènent l'œuvre de la croix à un niveau déplorable. Jésus est un commentaire vivant du chant du serviteur de Dieu. Il a utilisé les quatre chants comme guide pour mieux connaître la volonté du Père et savoir comment remplir sa mission de Messie ici sur terre, et je rajoute, pour notre salut, en notre faveur. Première étape, c'est le silence, la discrétion. 30 ans de vie cachée à Nazareth au milieu des pauvres, qui résistaient à la contamination et vivaient, résistaient, il manque N, et vivaient dans le droit et la justice. On sait tellement peu de lui dans les 30 premières années de sa vie. La deuxième étape, c'est l'élection et l'appel au baptême de Jean. À son baptême, Jean entendit la voix du Père: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. Sa mission de serviteur, il l'a assumée et dans la synagogue de Nazareth présenta son programme au peuple. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance, pour publier aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres ceux qui sont foulés et pour publier l'an agréable du Seigneur. Luc 4, qui est une citation d'Ésaïe 42 et d'Ésaïe 61. Une mission et un service. Plus tard, Jésus définit sa mission comme un service et le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Matthieu 20, 28, Ésaïe 49, 3. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. La troisième étape, il le montre maltraité mais justifié. Il commença à servir, annonça la bonne nouvelle du royaume de Dieu et donnant une parole de réconfort à ceux qui étaient découragés. À mesure qu'il avançait, les conflits et les tentations se multipliaient. Certaines le tentaient pour qu'il cesse d'aller de l'avant, d'autres le persécutaient. On l'accusait à tort, on se moquait de lui, on le raillait. Mais comme serviteur fidèle, il est défié. Qui d'entre vous me convaincra de péché? Jean 8, citation de Ésaïe 50. Il n'avait pas peur, il indiquait la source de son courage. Mon Père est toujours avec moi. Jean 16, Ésaïe 50. Jésus dénonçait l'injustice du système mis en place par les pharisiens et le mauvais usage qu'ils faisaient de la loi de Dieu. Marc 3, Marc 7, Ésaïe 50. C'est pourquoi les puissants décidèrent de le tuer. Quatrième étape, le serviteur souffrant. Incompris même de ses amis, mais partageant le destin des pauvres, Jésus assumait la quatrième étape, l'étape de la passion et de la souffrance. La veille de sa mort, il se lève de table pour laver les pieds de ses disciples, pour montrer encore une fois clairement qu'il était bien le serviteur, assumant le rôle de serviteur subalterne, rôle d'esclave. Rôle d'esclave, Jean 13. Crachèrent sur lui, se moquèrent de lui, le frappèrent, mais Jésus rendit son visage dur comme une pierre. Ésaïe 50, Jean 18. Il se tut, garda le silence, muet comme un agneau, sans répondre à ses accusateurs. Il donna sa vie pour la défense de la justice qu'il avait toujours annoncée. Il prit sur lui les péchés du peuple, Matthieu 8, Ésaïe 53. Il remet son esprit en disant « C'est accompli ». Le Père le ressuscite, confirmant par là que le chemin du salut vers lui est ouvert et nous pouvons nous approcher de lui dans une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints. Par le chemin nouveau et vivant qu'il nous a consacré à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Sa chair. Quatrième chant d'Isaïe, je vous propose un titre. Le fruit mûr de la passion et de la victoire finale du serviteur de Dieu. Et un plan dans ce quatrième chant. Ésaïe 52, 13 à 15, c'est Dieu annonce la victoire du serviteur. 53, 1 à 9, les souffrances et la mort du serviteur. Les versets 1 à 3, c'est le serviteur rejeté par les hommes. 4 à 6, le serviteur qui se substitue au pécheur. 7 à 9, la mort innocente du serviteur. Ésaïe 53, 10 à 12, la gloire du serviteur en récompense finale à son sacrifice. On trouve d'autres plans. Je trouve que celui-là a la capacité, la qualité d'être clair. Et on va jeter un coup d'œil sur ces strophes. La première strophe qui est la réussite finale du serviteur de l'Éternel. L'Éternel présente son serviteur en annonçant qu'il réussira entièrement la mission qui lui sera confiée sur terre et qu'il sera à cause de cela glorieusement exalté. Beaucoup seront horrifiés, étonnés, surpris, sidérés en voyant comment les souffrances ont défiguré le serviteur. Mais la stupéfaction des hommes se changera en joie lorsqu'ils apprendront finalement le destin glorieux du serviteur. La deuxième strophe, c'est le rejet du serviteur par les hommes. Le peuple reconnaît son incrédulité et son aveuglement au sujet du Messie. Ce rejet inouï s'explique en partie par le caractère faible et insignifiant qu'a revêtu la première venue de Jésus-Christ sur terre et par les souffrances de la croix. La troisième strophe, la substitution du serviteur au pécheur. Ces versets nous révèlent le véritable motif et le véritable sens des souffrances et de la mort de Jésus-Christ. Ce n'est nullement pour lui-même que Jésus a souffert, mais pour nous, pécheurs, qu'il est venu sauver. À la croix, ce sont nos péchés qu'il a portés, au verset 5. Le bouc émissaire ou le bouc Azazel de Lévitique 26 en dit quelque chose. Il a été ainsi frappé, blessé, écrasé par Dieu, comme nous dit Zacharie 13, verset 7. Dieu a mis sur lui toutes les iniquités des hommes, puis l'a châtié à cause de ses péchés qu'il a pris sur lui. Cette expiation des péchés des hommes permet à Dieu de faire grâce aux pécheurs et de les ramener de leur chemin de perdition sur le chemin du salut. Quatrième strophe, sa mort innocente. Loin de protester contre ce châtiment immérité, le serviteur l'accepte et le subit en silence. Hop, pardon. Alors qu'on le maltraite avec brutalité, il s'humilie avec patience et douceur. Sa soumission à la volonté de Dieu est exprimée au verset 7 par deux images. L'agneau qu'on immole, comme l'agneau pascal, la brebis sous la main des tondeurs. Il a été victime d'un jugement inique de la part des hommes, des chefs, des autorités du pays et de Rome. Personne n'a compris l'œuvre d'expiation que le serviteur a accomplie en mourant. Ceux qui l'ont condamné à mort ont voulu l'enterrer avec les méchants, mais Dieu a pourvu à ce qu'il fût mis dans le tombeau d'un riche afin de démontrer son innocence. Matthieu 27, et le verset 57 à 60. La cinquième strophe qui nous parle de sa récompense glorieuse. Dieu parle à nouveau pour expliquer aux hommes son action et son résultat. Ce quatrième chant est symétrique, il est composé de cinq strophes de trois versets chacune. Il commence et se termine par exaltation du serviteur de Dieu. La partie centrale est coupée par le récit du rejet et des souffrances expiatoires du Seigneur. Au début de ce chant et à la fin de ce chant, c'est Dieu qui parle. Dieu reprend la parole. D'abord, il annonce ce qui va se passer. On voit les événements se dérouler ensuite, hein, et à la fin, c'est Dieu qui reprend la parole pour dire « voilà ». Ce n'était ni pas les clous qui ont gardé Jésus-Christ suspendu sur cette croix, mais c'était son amour pour son Dieu et pour l'humanité. Dans l'humanité, il y a moi là. Il s'est offert pour payer la dette dont les hommes pécheurs étaient incapables de s'acquitter, puisque aucune bonne œuvre ne peut effacer un péché. Par son obéissance, ce serviteur revivra, pourra constater que beaucoup d'hommes seront justifiés par son sacrifice. Et ce serviteur méprisé deviendra un puissant de la terre lorsqu'il règnera avec ses élus. Et j'ai vu dans les programmes que la question du millénium avait été ou allait être abordée. Il a tout enduré jusqu'au bout pour nous, pour moi, car il fallait qu'il rachète l'humanité, quel qu'en soit le prix. Considérons sa souffrance et son sacrifice, marchons pleinement dans le salut qu'il nous a offert par sa mort, qui est et demeure pour l'éternité le sujet de notre louange et de notre adoration. Et là, je rajoute Amen. On aborde cette partie qui nous parle des souffrances du Christ. Qui a été développé à de nombreuses reprises, mais bon, je crois qu'on entre sur une terre sainte qui est tellement sainte que c'est difficile d'y rentrer simplement pour en parler, mais que cela puisse vraiment faire un écho dans nos cœurs. Le visage défiguré de notre Sauveur. Ésaïe 52, comme beaucoup ont été stupéfaits en te voyant tellement son visage était défait, plus que celui d'aucun homme, sa forme plus que celle d'aucun fils d'homme. J'ai donné mon dos à ceux qui frappaient, mes joues à ceux qui arrachaient le poil. Je n'ai pas caché ma face à l'opprobre et au crachat. Alors ils lui crachèrent au visage, lui donnèrent des soufflets, des gifles, ils l'ont giflé. Quelques-uns le frappèrent. Ils le revêtirent de pourpre, et ayant tressé une couronne d'épines, ils la lui mirent autour de la tête. Et ils le frappèrent. Le dos lacéré. Alors il relâcha Barabbas, ayant fait fouetter Jésus, il le livra pour être crucifié. J'ai donné mon dos à ceux qui frappaient. Le cœur encharpi, c'est-à-dire déchiré, dû à une pression sanguine extrême. Dans l'angoisse du combat, il priait plus instamment. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang découlant jusqu'en terre. Psaume 22, je suis répandu comme de l'eau, tous mes os se déjoignent. Mon cœur est comme de la cire, il est fondu au-dedans de mes entrailles. L'épuisement. Comme il amenait, ils prirent un certain Simon, Cyrénéen, qui venait des champs et le chargèrent de la croix pour la porter après Jésus. Psaume 22, ma vigueur est desséchée comme un dette. Un dette, c'est un petit morceau de poterie qu'on trouve quand on creuse dans la terre. Ma langue est attachée à mon palais, tu m'as mis dans la poussière de la mort. La crucifixion. Des chiens m'ont environné, une assemblée de méchants m'a entouré, ils ont percé mes mains et mes pieds. Quand ils furent venus au lieu appelé crâne, ils le crucifièrent là. Et les malfaiteurs, l'un à la droite, l'autre à la gauche. Les souffrances intérieures du Christ. J'en ai relevé quelques-unes. L'hypocrisie et le mépris. À cette heure-là, Jésus dit aux foules, êtes-vous sortis comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour me prendre? J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple. Vous ne vous êtes pas saisis de moi. Comme après un brigand. Pilate, le voyant qu'il ne gagnait rien, mais plutôt qu'il s'élevait un tumulte, prit de l'eau, se lava les mains devant la foule, disant, je suis innocent du sang de ce juste, vous vous y aviserez. On n'est pas innocenté comme ça, Pierre, par cela, Pilate, par une injustice. L'abandon, méprisé, délaissé des hommes, homme de douleur, sachant ce que c'est que la langueur. Comme quelqu'un de qui on cache sa face, il est méprisé, nous n'avons eu pour lui aucune estime. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une forte voix, disant, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui interprétait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'agonie, l'angoisse. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané et dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et commença à être à éprouver de la tristesse et des angoisses. D'autres traductions disent à être fort angoissé. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. On sait la suite. La moquerie, ils tressèrent une couronne d'épines, la posèrent sur sa tête, elle mirent sur un roseau dans sa main droite. S'agenouillant devant lui, il raillait, disant, Salut, roi des Juifs. Moquerie, humiliation. Et la haine collective. Que ferais-je donc de Jésus? Ouais, Pilate, tu fais bien de te poser la question, que feras-tu de Jésus? Qu'on appelle Christ, tous répondirent, qu'il soit crucifié. Le gouverneur leur dit, mais quel mal a-t-il fait? Ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Ça vaut à peu près la justice de notre temps. Il a porté le péché, subi la punition du péché. Il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est pourquoi, verset 12, je lui assignerai une part avec les grands, il partagera le butin avec les forts, parce qu'il aura livré son âme à la mort, qu'il aura été compté parmi les transgresseurs, qu'il a porté le péché de plusieurs ou de très nombreux, et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. Il a connu la séparation avec son Dieu pour un moment. Vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, disant, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On aborde une autre partie que j'ai nommée les fruits, Jésus et les évangiles. À la fin du verset 12, nous trouvons quatre expressions distinctes qui constituent le sommaire des évangiles quant à leur caractère. C'est pourquoi je lui assignerai une part avec les grands, il partagera le butin avec les forts, parce que il aura livré son âme à la mort. Comme fils, avec un F majuscule, la parole devenue chair, il avait le pouvoir de laisser sa vie. C'était le commandement du Père, Jean 10. En Jean 19, 30, il lui remit ou livra son esprit. Là, nous parle de l'évangile selon Jean, évangile du Fils de Dieu. Il aura été compté parmi les transgresseurs. Qu'est-ce qu'un transgresseur? C'est quelqu'un qui enfreint la loi et ce terme concerne évidemment Israël qui a transgressé la loi de Moïse dans son entier. Mais il s'étend également à tous les hommes, selon Romains 1, parce qu'ayant connu Dieu, ils ne le connurent point comme Dieu, verset 21. Puis celui qui seul a accompli parfaitement la loi a été compté parmi les iniques, afin que l'Écriture fût accomplie, Marc 15. C'est l'évangile selon Marc qui nous présente l'évangile du parfait serviteur. Il a porté les péchés de plusieurs. Nous retrouvons cette pensée en Matthieu 20, 28. Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Celui qui devait régner sur Israël est rejeté. Il se présente alors comme la parfaite victime et règle la question du péché en faveur de ceux qui croient. Les plusieurs qui représentent l'Israël futur avec lequel il régnera. Cela nous fait penser à l'évangile selon Matthieu, qui est l'évangile du Messie. Il a intercédé pour les transgresseurs. En Luc 23, 34, sur la croix, Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il implore la grâce de Dieu sur ses bourreaux. Lui, le Fils de l'homme, dont la vie parfaite a été une odeur agréable à l'Éternel, nous fait penser à l'évangile selon Luc, évangile du Fils de l'homme. Il y a quelques écueils à éviter quand il s'agit d'aborder les questions de la souffrance du Seigneur. Comment pouvons-nous parler positivement de la souffrance en général? L'écueil principal à éviter serait un manque de tact, de délicatesse, de sensibilité pour aborder, évoquer la souffrance du Seigneur dans l'Église. Parce que dans l'Église, il y a des cas concrets, il y a telle personne malade depuis longtemps, telle situation inextricable, tel conflit d'Église, telle division, séparation, et tout le reste. Tel frère qui baisse dans sa santé, baisse, et voilà. Dans le monde, il y a des souffrances absurdes que les hommes continuent à s'infliger. Des conflits, des guerres, une richesse effrénée d'un côté, une pauvreté honteuse d'un autre. Et pour chaque croyant, quelle est mon attitude en face de ma propre souffrance, en face de l'idée même de ma propre mort? Je lisais ce matin avec mon épouse un article qui nous parlait que la mort est la porte qui nous ouvre la résurrection et l'excellence du plan de Dieu me concernant. Comment est-ce que j'aborde toutes les contrariétés de la vie? Comment est-ce que j'envisage qu'il y a des choses dans ma vie, des chemins que je n'aurais pas choisis, mais dans lesquels j'ai appris quelque chose que je n'aurais pas pu apprendre autrement, c'était la grâce merveilleuse d'un Dieu qui nous dit: Je suis avec vous tous les jours. Alors, comment parler positivement de la souffrance? Chacun trouvera dans le but de Dieu en envoyant son Fils souffrir et mourir à notre place un but d'amour. La souffrance de Christ est devenue instrument de la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Et comment parler à la fois d'un Dieu qui réconcilie et avec lequel nous obtenons la réconciliation? Le plan glorieux du salut de l'homme est la manifestation de l'amour infini de Dieu. Cette phrase n'est pas de moi. Le plan glorieux du salut de l'homme est la manifestation de l'amour infini de Dieu. J'arrive au terme de ma présentation et je vous propose que simplement cette pensée, pour apprécier la valeur de la rédemption, il nous est indispensable de comprendre ce qu'elle a coûté. Je termine avec cette citation de Martin Luther qui dit: Seigneur, tu es ma justice, je suis le péché que tu as porté. Tu as pris sur toi ce qui était à moi et tu as pourtant placé sur moi ce qui était à toi. Tu es devenu ce que tu n'étais pas afin que je devienne ce que je n'étais pas. Seigneur Jésus, tu es ma justice, je suis le péché que tu as porté. Tu as pris sur toi ce qui était à moi, tu as pourtant placé sur moi ce qui était à toi. Tu es devenu ce que tu n'étais pas, afin que je devienne ce que je n'étais pas. vous remercie.
Merci à toi, Michel.
J'ai supprimé volontairement, pratiquement, toute la présentation des différents passages et versets, parce que je voulais rester dans une limite d'à peu près une heure. Vous cache pas que j'ai été bouleversé intérieurement en lisant, en relisant tous ces passages qui abordent un sujet qui est... Voilà. Ce que nous avons coûté. Alors, je crois qu'il y a le grand plan de Dieu, le plan de son amour infini, c'est une chose, mais chacun de nous et tout homme peut se l'approprier et tout mettre à la première personne du singulier. Voilà.
Alors, on peut tranquillement connecter son micro et puis intervenir. Peut-être que ce qui serait intéressant dans un premier temps, c'est de reprendre peut-être dans ce que Michel a dit, des choses que vous avez notées, et puis de poser des questions, de reprendre des choses pour que ce soit plus clair, ou alors de donner votre propre opinion. Et puis après, on pourrait aussi parler de ce sujet, hein, dans ce qui nous concerne, nous. Par exemple, pour reprendre ce qu'a dit Michel, je crois que c'est vraiment important de voir Ésaïe, prophète, de se dire que dans l'histoire d'Israël et l'histoire de l'humanité, Dieu, par Ésaïe, va faire prophétiser dans les années 750, hein, environ.
Mm-hmm, oui, c'est dans cet ordre-là, à peu près.
C'est intéressant de voir la prophétie par la bouche d'Ésaïe, de Jérémie et d'Ézéchiel. Et en 750, c'est-à-dire 750 ans avant la venue de Jésus, alors Dieu annonce qu'il va sauver, comme l'a dit Michel. Au passage, Michel, tu vérifieras tes sources hébreux, mais Yessa Yahou, en principe, ça veut plutôt dire Yahou, c'est la forme courte de Yahvé, qu'on retrouve dans énormément de noms propres. Yahou, c'est-à-dire l'Éternel, Yessa sauvera. C'est-à-dire que tu as raison de dire que Ou, c'est lui, mais à mon avis, en tout cas dans ce que j'ai pu étudier et voir, il n'y a pas le suffixe « ou » dans « Yesayahu ». Mais tu vérifies tes sources. Hein.
Mais tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Mais moi, je suis neutre, là. Et j'ai...
C'est-à-dire que, par exemple, Sédécias, c'est Sédéki Yahou. C'est-à-dire Yahou et Yahou, l'Éternel, Sédéki est ma justice. Élie, c'est Élie Yahou, c'est-à-dire Yahou est mon Dieu. Et Yahou, c'est la forme courte, enfin moyenne en tout cas, de Yahvé. Il y a trois formes de Yahvé, c'est Yahvé, Yahou et Yah, qu'on retrouve dans la Bible. Mais ce découpage, voilà, tu vérifieras ton découpage. Ce qui est intéressant dans les trois prophètes, c'est que environ 150 ans avant la transportation, puisque la transportation a lieu à partir de 606, alors Dieu fait dire par Ésaïe qu'il sauvera. Par contre, Jérémie, qui prophétise pendant la transportation, hein, environ entre 640 et entre 640 et 580. Alors Jérémie, Yirmé Yahou, ça veut dire Yahou, c'est-à-dire Yahvé, relèvera. Et Ézéchiel, qui prophétise plutôt après la fin de la chute d'Israël. Entre 590 et 570, Yézéchiel, elle, c'est Dieu, et Yézek, ça veut dire me fortifiera. C'est-à-dire que Dieu me fortifiera. Et on voit ces trois grands prophètes qui sont Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, qui portent en eux un discours particulier où Ésaïe annonce les chutes et le serviteur. Et il sauvera, Mais Jérémie annonce, pendant que la transportation se fait, que Dieu relèvera. C'est intéressant de voir la particularité de chaque prophète, et tu en as souligné celle d'Ésaïe.
Alors, on a une question. Pourquoi Ésaïe insiste-t-il autant sur la description du serviteur?
Par rapport aux deux autres, je veux dire.
Oui. Question de Séverine. Bonjour Séverine. En Luc 17, le Seigneur dit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention. » Un Seigneur qui serait venu glorieux et pour bouter les Romains hors de Canaan aurait sûrement beaucoup plus, davantage plu au tempérament des Juifs de l'époque. Le Seigneur n'est pas venu pour mettre les Romains dehors, il est venu pour donner sa vie. Et à ce titre, ceux qui voulaient le chercher, devaient le chercher. N'empêche pas moins que Dieu a pris la peine de glorifier particulièrement son Fils. Il y a une scène qui est unique, c'est les trois personnes de la Trinité qui sont là. C'est au baptême de Jean le Baptiseur. Le Père parle, le Saint-Esprit descend sur celui qui est présenté comme le bien-aimé du Père. Donc, effectivement, humainement, on pouvait le considérer comme quelqu'un de très effacé, qui n'attirait pas l'attention, et là, Ésaïe insiste sur ce fait. Mais c'est parce que, justement, il n'y avait rien en lui pour nous le faire désirer, qu'il s'adresse non seulement à ceux qui parlent au cœur, il ne parle pas à l'apparence, mais il parle à ceux qui concernent nos cœurs.
À mon sens, pour poursuivre la réponse de Michel, Ésaïe prophétise pendant un temps de royauté en Juda, il y a un temps de prospérité. Je ne me souviens pas des noms qui figurent, je crois, des noms des rois. Mais on a Akaz, hein, voilà, on a Akaz au chapitre 7. Et par exemple, au chapitre 7, Dieu dit à Akaz, demande un signe à l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu voudrait que Akaz fasse demande de Messie. Et Akaz répond à Dieu. Donc toujours au chapitre 7, je ne tenterai pas la patience de l'Éternel, mais l'Éternel lui répond, mais écoute, voilà, même si tu veux pas éprouver la patience de l'Éternel, moi je te dis que la jeune fille concevra et que le Messie va venir. C'est-à-dire qu'il y a un temps de prospérité, soit qu'à Ézéchias, ou Ézéchias, par exemple, au chapitre 37, 36, 37, 38 va montrer sa prospérité à Babylone, et c'est pour ça que Babylone va envahir. Eh bien, dans ce temps de prospérité, je pense que les rois oublient la vocation du pays d'Israël qui est de recevoir le Messie, et c'est pour ça que Ésaïe, à mon sens, décrit le Messie d'une manière aussi précise. Jérémie, lui, de toute façon, le peuple est dans la galère là. Jérémie prophétise à partir de Josias et jusqu'à Sédécias, et sous Jérémie c'est la faillite, rien ne va plus, et donc Jérémie essaye de dire que Dieu a quand même son plan. Je reformule courtement, j'ai un peu l'impression que les rois ne voulaient pas que le Messie vienne parce qu'ils risquaient de perdre leur place. Alors, c'est une opinion personnelle, hein, mais ça peut se comprendre.
Pilate aussi, le Sanhédrin aussi, et tout ça.
l'ouvrage. Oui, oui.
Une question que je me pose à moi-même, et je vous demande un peu conseil. C'est-à-dire que ce qui est sacré, on peut dire, c'est ce qui est exceptionnel, unique. Et à l'inverse, il y a ce qui est banal, c'est-à-dire ce qu'on rencontre tous les jours, qui est vulgaire dans le sens pas péjoratif du terme, hein, courant. À partir de là, comment être toujours sensible à ce que tu nous as développé, aux souffrances du Seigneur, alors qu'on sait ces choses, on en parle tous les jours, on y fait allusion tous les jours, donc c'est quelque chose qui devient coutumier et banal. Voilà, vous comprenez, j'espère, le sens que je veux y attribuer. Et donc, c'est quand même difficile, parce que on sait par expérience qu'une personne ou un juif découvrant Ésaïe 53 qu'il n'a jamais lu et comprenant que c'est le Messie, il est en larmes, pour parler par extrême, parce qu'on est bouleversé de lire cela. Il en est de même au début de notre conversion, etc., etc. Et après, nous savons, ou je sais en tout cas, beaucoup de choses sur la personne du Seigneur à travers les Écritures, dans les psaumes, dans les prophètes et dans les évangiles, je le sais, je peux les mettre à côté, je peux les présenter, etc. Le problème, c'est que ça perd quand même, de façon pratique. On n'est pas ému aux larmes, ce n'est pas indispensable sans aucun doute, par le fait de lire de tels récits qui, dans un sens, devraient nous bouleverser, puisque ce n'est rien moins que le Fils de Dieu qui porte mes péchés, mes iniquités. Et quand on dit « nous n'avons eu pour lui aucune estime », c'est bien ce que, globalement, nous faisons chacun. Alors, ma question, pour ainsi dire, c'est comment peut-on connaître ces choses depuis des dizaines et des longues dizaines d'années, tout en restant frais comme au premier jour. Alors, si quelqu'un a une bonne réponse, ça m'intéresse.
Je n'ai pas la bonne réponse, mais quand je m'aperçois que il m'arrive de penser, de dire, de faire des choses pas bien, mal, de pécher, hein, je sais aussi les passages bibliques qui me disent de comment en sortir, je les connais bien, mais je me dis: pour cela, Jésus a souffert. Donc, ça me redonne un coup de fouet en disant: Richard, voilà, fais attention à ce que tu fais, parce que pour cela aussi, il a souffert. Ça peut être des petites choses, hein, mais pour cela aussi.
Pour moi, c'est... ces passages nourrissent la connaissance générale que j'ai de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Quand je suis roumanian avec ces grands arbres, avec le ciel bleu aujourd'hui et la douceur du temps, il y a les choses que Dieu a créées. Et puis, quand j'entends les cantiques dont parle Michel, il y a le cœur de Dieu et Père, Fils et Saint-Esprit qui souffrent. Et pour moi, c'est cohérent, ça. C'est-à-dire que je sais que mon père, mon papa, a souffert, souffre et souffrira pour moi. Et ça nourrit ma relation avec lui. c'est vrai, comme dit Pierre, qu'il y a le risque de banaliser, d'entendre des choses qui ne nous émeuvent plus. Mais d'un autre côté, je peux dire, je sais pas assez raisonnablement, je sais pas si c'est difficile de se juger, mais que quand je participe à la scène le dimanche, je pense que je suis assez fréquemment ému à en pleurer si je me laissais aller. Et je pense que ce rappel de ce que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit a vécu, vit et vivra avec nous, c'est quelque chose de très important dans cette relation qu'on a avec lui, dans cette connaissance générale qu'on peut avoir de lui.
Moi, je me rappelais que dans le psaume 22, il y a une question, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Moi, je me rappelais souvent au moment de la scène que nous sommes une réponse, mon salut est une réponse. Et je crois que cela va au-delà de ça. Il me semble que ça concerne même la révélation que Dieu a voulu faire de lui-même. Quand je dis Dieu, je parle Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu dans le sens le plus élevé. Ce qui me confond, c'est qu'il est pris des mots que je peux comprendre, des expressions et des images que je peux saisir dans toutes les limites qui est celle de l'esprit humain, pour révéler quelque chose qui dépasse toute la pensée humaine. Moi, quand je lis Jean 1, au commencement était la parole, au commencement de quoi ? Au commencement de quoi ? Moi, je suis toujours émerveillé et profondément ému quand il est question des souffrances du Seigneur, parce que je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as payé pour moi, là ? De ce qui concernait mon salut, mais ce qui concerne après le quotidien de ma vie de tous les jours, comme disait Richard tout à l'heure. Alors, qu'il faille rechercher l'émotion, je ne suis pas certain que ce soit ça, mais qu'il y ait des moments où on soit touché tout particulièrement, parce que je sens qu'il y a dans ces rappels des souffrances de du Seigneur quelque chose qui est tellement intime entre lui et moi. Quelque chose qui me touche tellement profondément, avec le danger de tout ramener à moi. Et le danger opposé, c'est de tout voir ça dans un sens très général. Oui, c'est pour nous, c'est pour ceci. Non, c'est pour moi qu'il a souffert. Et qu'est-ce qu'il a payé dans ses souffrances et dans sa mort qui me concerne directement ? Ça, c'est un point. Il y a un deuxième point, c'est que je crois que c'est toujours avec une profonde, profonde émotion que moi je reviens sur ces chapitres d'Ésaïe 53. Mais il me semble que je suis devant un infini et que j'y trouve des choses nouvelles chaque fois que je m'en approche. La finalité en soi, ce n'est pas la recherche, hein. C'est de goûter toujours plus cet amour du Seigneur, cet amour de Dieu.
Je voudrais revenir sur les cantiques que Michel nous a présentés et peut-être souligner certaines choses. Au chapitre 42, il a parlé de ce serviteur qui ne...
Tu veux que je les affiche ?
Pas forcément, non.
Non.
Ce serviteur qui ne réveille pas, hein, qui ne fait pas de bruit, qui n'élève pas la voix. Et on trouve un peu ça en Matthieu 13, versets 10 à 12, dans les paraboles du royaume, où Jésus parle en parabole et ses disciples disent à Jésus, « Mais pourquoi est-ce que tu parles en parabole ?» Et Jésus dit, « C'est afin que eux, entendant, ne comprennent pas. Voyant, ils ne discernent pas. » Et je trouve que là, il y a un caractère de Dieu qui est extrêmement important. C'est celui de laisser l'autre libre et de laisser le peuple d'Israël libre, de la même manière qu'il nous laisse libre. C'est-à-dire, Dieu parle, Dieu a parlé à son peuple, mais si le peuple ne veut pas entendre, alors quand Dieu vient, alors Dieu ne cherche pas à réveiller le peuple. on pourrait dire que c'est, ça fait très peur. On pourrait dire que, on pourrait ne pas comprendre un Dieu qui agirait comme ça. Mais il y a quelque chose de normal, quelque chose de logique là-dedans. Dieu laisse Israël aller dans le sens de ce que Israël aura voulu génération après génération, dans le sens de ce que Israël aura construit génération après génération. Je donne quelques exemples. Salomon, on parle de la sagesse légendaire de Salomon, mais Salomon, ça a été en Israël le premier roi idolâtre. C'est incroyable. Et quelque part, Dieu a laissé Salomon faire et le peuple est allé avec Salomon dans l'idolâtrie, l'idolâtrie qu'il a cultivée avec les femmes qu'il a épousées. Et Dieu a laissé faire. Bien sûr, Dieu n'est pas dépassé, bien sûr, Dieu fera quelque chose de ce qu'il a laissé faire. Mais en attendant, Dieu laisse faire. Et une application pratique pour nous, c'est que si notre objectif n'est pas de permettre à Dieu de faire quelque chose en nous, alors Dieu nous laisse faire, nous, quelque chose en nous. Je crois que, comment s'appelle cet écrivain qui a écrit Tactique du diable ? C.S. Lewis. Lewis a une formule sur l'enfer, dont vous vous rappellerez sûrement, je ne m'en souviens pas. Mais il a quelque chose comme la vie éternelle, c'est de laisser Dieu faire en nous, et l'enfer, c'est de nous laisser faire sans Dieu, ou un truc comme ça. Et si on écoute bien ce premier cantique d'Ésaïe 42, c'est ce que Dieu fait. C'est-à-dire que si l'humain veut s'empêtrer dans son caca, Dieu laisse l'humain s'empêtrer dans son caca. Et je trouve que c'est dans les cantiques du serviteur quelque chose qui, personnellement, me touche profondément. C'est-à-dire que notre planche de salut, c'est quand même de dire, Seigneur, chaque jour, moi, je ne veux pas être seul dans mon caca. Moi, je veux que tu viennes. J'ai entendu un jour Pierre Audon faire un commentaire sur Exode 33 et sur le sens de la grâce, je ne sais pas si tu t'en souviens, qui disait, la grâce, c'est Moïse qui dit, mais on est dans le caca, mais viens avec nous. Hein, c'est ça, la grâce. Alors que pour nous, on voudrait peut-être plutôt vivre d'être libéré de toutes les contraintes.
Faire un café, s'il te plaît, chérie.
Mais au contraire, hein, Dieu veut être présent dans nos difficultés. Et je trouve que le premier cantique du serviteur montre que notre tendance, c'est plutôt de ne pas avoir de difficultés plutôt que de rechercher la présence de Dieu.
En 1 Roi 12, verset 24, après la division de l'État d'Israël en deux, l'Éternel dit, c'est de par moi que cette chose a eu lieu. Alors, même dans la pensée divine, je pense que Dieu savait ce qu'allait faire Salomon, mais que Dieu a laissé faire, parce qu'on est toujours responsable de nos choix. Mais ça rentrait quand même dans le cadre du plan de Dieu, exactement comme le recensement au moment de la naissance du Seigneur, comme les hommes qui s'imaginent qu'ils organisent beaucoup de choses et en fin de compte, ils ne sont que des instruments dans la main de Dieu.
Moi, j'ai une question. J'ai une question qui est... parce qu'on a dit... On l'a redit, donc, cet aspect donc, de ce serviteur souffrant qui prend cette position de substitution, hein, qui prend ma place au jugement de Dieu, qui porte mes péchés, etc. Hein, nous connaissons cela. Mais je suis souvent en contact avec des chrétiens qui appliquent cela à Ésaïe 53, donc verset 4, où il a porté nos maladies, donc en appliquant la même chose que pour nos péchés, puisqu'il a porté nos péchés, il les a enlevés on n'a plus de péché si on les confesse, si on le reconnaît. Hein. Et pour les maladies, c'est pareil. Donc, un chrétien qui est bien portant avec Dieu, dans sa relation avec Dieu, ne devrait plus avoir de maladie. Voilà, je suis entouré de chrétiens comme cela. Est-ce qu'on peut échanger sur ce point ? Cela m'éclairerait. Merci.
Je sens que Pierre se caresse la barbe, il a envie de répondre quelque chose.
Bon, je vous signale quand même que je peux mettre à votre disposition, ça doit être quelque part, une conférence complète avec même, il y a l'audio que j'ai donné à Grenoble là, il y a quelque temps sur le thème « La maladie dans la Bible ». Donc, c'est un sujet qui mérite d'être considéré dans son ensemble. Pour répondre de façon précise à la question, un jour, j'étais à une réunion pentecôtiste régionale, on va dire, et qui était radio-télévisée. Donc, c'est quand même pas n'importe qui parlait. Et j'entends ceci. Nous ne sommes pas des guérisseurs, mais nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous croyons ce que Dieu dit, parce que en Matthieu, au chapitre 8, il est dit clairement, afin que fût accompli ce que a écrit Ésaïe le prophète, il a porté nos langueurs et s'est chargé de nos maladies. Nous croyons que Jésus-Christ a porté nos maladies dans l'œuvre de la croix, qu'il a accompli sur la croix, donc la guérison est le résultat de l'œuvre de Jésus-Christ, et nous ne faisons qu'ajouter foi à ce qui est écrit. Moi, tout de suite, je bondis parce que je dis, je n'avais jamais appris que Matthieu 8, c'était Matthieu 27. La croix, c'est 27, c'est pas 8. Or, il est dit en toutes lettres que ce verset et cette partie de verset fut accomplie lors du vivant et du ministère de Jésus-Christ. Donc voilà un truc à réfléchir. Et je vous signale que ces versets 4 et 5 d'Ésaïe 53 sont cités deux fois dans le Nouveau Testament. Le premier, Matthieu 8, et le second, 1 Pierre 2. Et en 1 Pierre 2, c'est « Il porte nos péchés ». Alors, je résume. Pendant sa vie, il porte nos maladies en compassion, en souffrance, en guérison qu'il faisait lui-même, et à la fois, il porte nos péchés. Donc, voilà, à mon avis, quelque chose qui est valable. La maladie ne fait pas partie de l'expiation. Et la guérison systématique est un mensonge quand, au point de vue biblique et quant à la réalité. Parce que c'est réellement nier l'évidence. Nier l'évidence, y compris dans les milieux de Pentecôte, où il n'y a pas plus de guérison qu'il n'y en a ailleurs. Hein, qu'on le dise, qu'on l'entende. Alors, la leçon peut-être pratique que nous avons à retenir, c'est que pour eux, ils s'attendent toujours à la guérison, et donc on encourage la foi, ce qui vient. Et nous, on ne s'attend pas à la guérison et on ne l'a pas, ce qui décourage peut-être la foi. Donc, soyons pratiques, honnêtes, objectifs, en disant peut-être nous avons à progresser, Dieu reste Dieu, il est toujours puissant pour guérir, sans aucun doute. Le faire systématiquement, c'est absolument ignorer l'Écriture. Je citerai simplement des cas bien sûr connus, où à la fin de son ministère, Paul remercie Dieu qu'il a gardé Épaphrodite afin qu'il n'eusse pas tristesse sur tristesse. Vous voyez que tout n'est pas joyeux dans le service. Et puis, il termine dans la deuxième épître à Timothée en disant « J'ai laissé Trophime, mon collaborateur, malade à Milet. » Il a laissé malade. Mais c'est quoi ça? Il n'avait pas compris que la guérison était acquise par l'œuvre de Jésus-Christ. Il n'avait pas la puissance pour guérir. Paul, avec les nombreux miracles qui sont rapportés. Non, il nous faut un tout petit peu de cohérence et nous n'avons pas à choisir dans la Bible tous les versets qui vont dans le sens de la guérison. On vous cite par exemple Exode 15, « Je suis l'Éternel qui te guérit, toujours, partout, il n'y a plus de maladie sur la terre. » à quoi je termine là, en disant, pensez quand même aux persécutés. Je viens de recevoir un SMS de mon fils, Daniel, qui, vous le savez peut-être, donc, qui est dans les îles grecques, où les chrétiens sont persécutés dans les camps de migrants. Voyez, ils sont persécutés durement, on va dire, comme dans d'autres pays. Et il vient d'en exfiltrer quelques-uns qu'il a ramenés ailleurs. Bon, on va dire comme ça. Et donc, on se pose la question, on dit alors, dans les pays où on a accès aux soins, où on a tout, nous on a les guérisons, il suffit de demander tout ceci. Et tous ceux qui sont persécutés, tous ceux qui sont malades et qui n'ont pas de soins dans le monde, qui représentent la quasi-totalité du monde, ça ne vous gêne pas? Moi, excusez-moi, ça me gêne parce que ça ferait de Dieu quelqu'un de parfaitement injuste. Il nous donne toutes les richesses, la tranquillité, la paix, la guérison et je ne sais pas quoi encore, alors qu'il oublie la plus grande partie du monde. Ce n'est pas le Dieu que je connais. Merci.
Si je peux répondre, moi je dirais que je trouve que c'est très culpabilisable parce que si tu guéris pas, c'est que tu n'as pas la foi. Si tu n'as pas la foi, est-ce que tu es croyant? Je pense que c'est une explication qui est un petit peu lapidaire dans ce sens où il faudrait expliquer ça à notre frère Marc Gondran qui est en train de partir de la maladie de Charcot. Ben, si tu avais la foi, tu serais guéri. Je pense que c'est un raisonnement qui est très très fermé. Bien sûr, le Seigneur a accompli des résurrections, bien sûr qu'il peut le faire. Est-ce que c'est un problème concernant sa puissance? La question subsidiaire, c'est est-ce que ça rentre dans son plan me concernant? Moi, il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup, c'est qu'à la question du salut de mon âme soit rajoutée une jeunesse où je ne grossirai pas, je ne serai jamais malade, je n'aurai jamais de rides, je n'aurai pas ça ici, bon, je ne vous en dis pas plus, où on reviendrait dans une espèce d'état idyllique, mais qui n'est pas cohérent.
L'apôtre Paul n'avait pas la foi parce qu'il a prié pour son écharde, elle n'a pas été enlevée.
On peut même dire ça du Seigneur puisqu'il a laissé un paralytique à la belle porte du temple où il est passé de nombreuses fois. Et qui ne l'a pas guéri non plus.
Y compris les nombreux malades qui étaient à la piscine de Bethesda. Ça a amené d'ailleurs quelqu'un qui était un prédicateur de l'évangile de la guérison et de la prospérité à se remettre en question. Parce qu'il disait, nous on annonce que Jésus guérit tout le monde, et là j'ai vu qu'il n'avait connu guéri qu'un seul. Il a dit, mais attends, qu'est-ce qu'on raconte puisque ce n'est pas vrai selon la Bible? Et ensuite, il a dit toujours dans la puissance de ceci, de cela, et puis, manque de chance, dans ce passage, celui qui a été guéri ne savait pas que c'était Jésus qui avait guéri, pas même. Il a dit, mais toute ma théologie est fausse, c'est le neveu de Benny Hinn que je suis en train de citer. Un thaumaturge connu au niveau mondial, si vous voulez. Et donc, il faut être prudent, modéré, mais que d'un autre côté, on s'encourage à la foi, hein, parce que Dieu répond quand même à la foi, si c'est dans son plan, dans son dessein, pour sa gloire et pour notre bien.
Je crois qu'on donne beaucoup d'ordre à Dieu dans nos prières.
Ouais. Des fois, tu entends des prières, on a l'impression qu'on veut évangéliser Dieu. On commence par lui rappeler la moitié de la Bible au cas où il aurait oublié, en lui disant, tu nous as promis ça, ça et ça. Ben oui, mais je sais, c'est moi qui l'ai écrit la Bible, donc je sais ce que j'ai promis. Mais bon, comme si Dieu était notre serviteur, là, dépannage 24 heures sur 24 ans.
Pierre, tu peux peut-être faire allusion à l'église de Mulhouse.
entre 40 et 70 morts dus au Covid, et qui continue de dire on guérit, on guérit, on guérit, tous les dimanches.
Oui, on me rappelle le cas de Mulhouse. Bon, qu'il soit bien clair qu'ils ont été accusés injustement par les autorités d'avoir usé de laxisme. Hein. Donc tout ça, c'est de la propagande qui est injuste, que cela soit dit. Mais c'est une assemblée, on va dire, du plein évangile qui croit donc à la guérison systématique et qui croit aussi à l'évangile de prospérité, quoi qu'il soit plus modéré que beaucoup. Hein. On est d'accord. Je connais, j'ai rencontré Samuel Peter Schmitt, ça fait longtemps. Nous connaissons ce qui est arrivé, c'est-à-dire que, bon, pourquoi ça a commencé là, on ne sait pas trop, mais enfin, le résultat, c'est qu'il passait une semaine de jeûne, de prière, de supplication, et la guérison faisait partie des demandes. Et donc là, il y a, mettons, une cinquantaine de personnes qui sont mortes quand même. Hein. Maintenant, on a à peu près les bilans, bon, bah, ce n'est pas disparu, mais c'est ça, l'ordre de grandeur, ce qui est énorme. Parmi des chrétiens, y compris des gens très, très connus, et qui avaient un ministère équilibré au niveau français. Je fais allusion à M. Taubois. Hein. Des serviteurs réellement très, très, très sérieux qui sont morts hein, dans l'affaire. Donc, cela doit bien sûr interpeller. Et vous avez peut-être écouté la confession de Samuel Peter Schmitt, qui est remarquable au niveau de l'humilité. Et je crois qu'il y a quelque chose à apprendre. Mais qu'est-ce qu'il a dit? La conclusion de tout, il vient de comprendre, mieux vaut tard que jamais, que Dieu était souverain. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais enfin, quand on a son âge et qu'on prêche tous les dimanches ou très, très souvent, je pense que ça peut s'apprendre avant que Dieu est souverain. Et un de ses fils, je crois, il y a quelques années, donnait son témoignage parce qu'il avait été accablé par une dépression nerveuse qui a duré 2 ans. Et puis, il a rendu témoignage aussi avec beaucoup de... d'honnêteté en disant ben, j'étais bien persuadé qu'un chrétien ne pouvait pas souffrir de dépression nerveuse. Bon, très bien, mais quand même il faudrait arriver à remettre en question peut-être les doctrines de base, parce que tant qu'on ne les abandonne pas, on arrivera aux mêmes excès. Or Dieu nous parle, et je crois qu'à travers cette Église il y a cela à retenir, entre autres, et puis bien d'autres leçons. Hein, et entre autres donner des ordres à Dieu, d'autres, comme il a dit, le culte spectacle, on disait tout à l'heure, on va tous, et c'est une tendance actuelle, vers le culte spectacle. On dit, ben tiens, on regarde ça par visioconférence, ils ont une chorale comme ça, un prédicateur comme ça, etc. Oubliant que le culte d'adoration est quand même pour Dieu. Il ne faut quand même pas trop oublier le principal, sinon on se trompe. Culte, c'est pour Dieu. C'est le Père qui cherche des adorateurs, hein, qu'il adore en esprit, en vérité. Donc, si on loupe l'essentiel, si on est dans une autre direction, attention au mur, au bout, même si, au niveau, on va dire, technique, c'est remarquable et qu'on a du plaisir à écouter ces choses, ne nous trompons quand même pas d'objectif, c'est la chose la plus grave qui puisse arriver. Si je vais vers une ville et que je prends la mauvaise direction, je peux marcher pendant 100 ans sans atteindre quand même le but.
Pierre, tu pourras nous envoyer le lien pour ta présentation?
Oui, ben je le donnerai, Guillaume, à côté, là, je le donnerai bien sûr.
Merci.
Pour faire suite à la présentation de Romaric hier sur Règne de Milan, je dirais que ce matin, avec les cantiques du serviteur, il faut aussi insister sur, au chapitre 49, le soin de Dieu pour les nations. Je t'ai envoyé pour les nations, tu seras une bénédiction pour les nations. Le serviteur au chapitre 49 dit « Oui, mais mon travail en Israël a été inutile. Oui, mais Dieu lui dit « Je t'envoie pour les nations. Et la troisième partie de la deuxième partie dont Michel nous a parlé, c'est-à-dire les chapitres 58 à 66 à peu près, hein, sont l'avènement en fait du Christ, la gloire de Jérusalem, le retentissement de Jérusalem parmi les nations. Et je pense que voilà, je le dirai à Romaric, mais un grand manque de ce que Romaric a présenté hier, c'est de ne pas présenter la perspective du royaume de Dieu dans la perspective de la révélation de Dieu par le peuple d'Israël. Justement, le cantique du serviteur va dans ce sens, celui du chapitre 49. Donc, faisons attention à bien retenir ça, c'est-à-dire que Dieu veut parler par un pays, par un peuple, hein, par une race. Un Pierre 2 dit une race élue, nation sainte, un peuple acquis, et il s'agit de la race, c'est la race des Juifs. Donc, intégrons le fait que Israël a été et sera le peuple par lequel Dieu a parlé et parlera. Et ce cantique du serviteur, c'est aussi un témoin de ce que Dieu va faire. Il faut que ça ait de l'importance pour nous.
D'où la complémentarité des messages.
Oui. Sans donner trop de détails, je cite par exemple Ésaïe 2, dans les 4-5 premiers versets, qui dit que en ce jour-là, c'est-à-dire dans le moment où Jérusalem aura toute sa splendeur, les nations viendront à Jérusalem et diront « Nous avons envie ou besoin d'apprendre de votre Dieu. » Hein, voilà qui est fantastique. Si on pouvait s'imaginer être dans ce temps où le Christ règne, et où les ambassadeurs en France vont voir en Israël comment ça se fait que ça se passe aussi bien, hein, au niveau politique, économique, écologique, social, technique, etc., et qui reviennent en disant « mais ils nous ont pas donné d'éléments politiques, techniques, sociaux, économiques, mais ils nous ont dit qu'il fallait qu'on se tourne vers Dieu. » Hein, si on imaginait que ça puisse se passer aujourd'hui, ça… Je crois que ça nous montrerait aussi comment est-ce que Dieu veut parler par le politique.
Je voudrais faire juste une remarque à propos de Salomon, et pourquoi Dieu a laissé faire l'idolâtrie. Et on lui a apporté 666 talents d'or chaque année. Et c'est l'homme le plus sage de tous les temps. Et dans le Nouveau Testament, il faut de la sagesse pour calculer le nombre 666 lié au fils de perdition. Alors, la même question se pose, pourquoi Dieu va laisser faire une chose aussi abominable?
À Salomon, au roi, il était demandé trois choses. Un, tu n'auras pas beaucoup d'or. Deux, tu n'auras pas beaucoup de chevaux. Trois, tu n'auras pas beaucoup de femmes. Et ce pauvre Salomon, c'est triste, mais il s'est vautré sur les trois plans. D'un côté, c'est un obsédé sexuel. D'un autre, il avait de l'argent, pire que jamais personne n'en a eu, même Bezos, le champion d'Amazon, il est minable à côté de lui. Et le troisième plan, c'est les chevaux, ça arrivait par plein camion depuis l'Égypte. Il a bien commencé, il a mal fini. Et moi, je crois que c'est pour nous aussi une grande leçon, parce que quand on voit le début de la vie de Salomon, on peut la prendre en exemple, donne à ton serviteur un cœur qui écoute, hein. Mais il faut croire qu'un jour, il a pu écouter. Mais nous, on est absolument à l'abri de ça, hein. Nous le comprenons bien, hein.
Encore un petit mot sur les souffrances du Seigneur, celles qu'il a endurées pour nous, à notre place, et puis pour nous, de manière pratique, on l'a évoqué déjà, où on voudrait passer parfois, voire même souvent, à côté de situations difficiles, hein, et nos prières vont dans ce sens. On l'a dit tout à l'heure, hein, bien sûr, on rappelle à Dieu ce qu'il doit faire, mais nous oublions que Dieu nous dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Et donc, on voudrait passer à côté de situations douloureuses et de choses comme cela, alors que Dieu veut nous accompagner dans ces situations. J'aimerais bien le rappeler, ça, on l'a dit, mais j'aimerais bien le rappeler. Et avec cette citation de Claudel, Sauf erreur, hein, qui dit que Dieu n'est pas venu dans le monde pour supprimer la souffrance, Dieu n'est pas venu dans le monde pour l'expliquer, mais Dieu est venu dans le monde pour remplir la souffrance de sa présence.
On a parlé tout à l'heure de des souffrances du Seigneur. Un verset qui est particulier, c'est Ésaïe 53, 10. Dans la version Darby, il est dit qu'il plut à l'Éternel de le meurtrir. Si on regarde différentes versions, on trouve le mot écrasé, broyé, des choses difficiles. Et c'est un verset qui nous amène à vraiment à réfléchir sur ce que notre Sauveur a subi.
Je me suis souvent demandé si ça ne serait pas justement le motif d'accusation au grand trône blanc. Vis-à-vis des pécheurs, qu'est-ce que tu as fait des souffrances de mon fils? On peut tout connaître de la Bible, on peut être capable de réciter des chapitres, on peut même faire le sapin de Noël, la crèche et tout ce qu'on voudra, mais qu'est-ce que tu as fait des souffrances et de la mort de mon fils? Est-ce qu'on est d'un côté ou est-ce qu'on est de notre? Là, on ne détaille pas le gris. Devant le salut de notre âme, je crois que ou on est sauvé ou on est perdu. Aujourd'hui, il y a une tendance, comme le rappelait Pierre, et qui nous fait croire que tout le monde il est bien gentil, tout le monde il est bien sympa, c'est le bon Dieu qui, à la fin, tout le monde sera sauvé. Comme chantait un fabulateur, nous irons tous au paradis. Tous les chrétiens, oui, c'est sûr. Il s'est passé une scène il y a 2 ans, devant le local, à la sortie du culte à Béziers. On faisait ce qui se fait toujours, c'est-à-dire on discutait entre amis. Et moi, j'ai vu arriver une personne qui portait un t-shirt avec la croix à l'envers, les cornes et les pieds fourchus. Tous les symboles et marqué évidemment 666 à l'envers, les symboles du satanisme courant. Et en passant, ce monsieur nous regarde et il nous fait... Bon, il n'était pas très beau, il n'avait pas l'air d'être tout à fait à jeune non plus. Et moi, il se trouve que ce jour-là, chose exceptionnelle, et ça surprend un petit peu parce qu'on n'est pas toujours préparé à ça, j'avais autour de mon cou, ce que je n'ai pas aujourd'hui, une petite croix en bois. Et c'est venu comme ça. Je lui dis, vous savez ce que ça veut dire, ça, cher monsieur? Ça veut dire que moi, je suis de ce côté-ci de la croix de Jésus, vous, vous êtes de l'autre. Mais ça ne change rien pour vous à l'amour de Dieu. Dieu vous aime, Jésus est mort pour vous. C'est sorti comme ça, boum, d'un coup. Il est parti dans une colère épouvantable. Et s'il arrive le dixième de ce qu'il m'a souhaité et des mots qu'il a dit, j'ai même appris quelques gros mots remarquables. Et... dans une haine épouvantable, un regard d'une haine, quelque chose d'insondable. Et moi, dans une paix, mais j'étais de ce côté-ci de la croix. Et entre les deux, il y a la croix de Jésus. Et que ce soit un monde qui se livre à Satan, de toute façon, il est livré à Satan puisqu'il n'a choisi pas la bonne voie. Ou que ce soit un monde qui se croit bien pensant, tout le monde il est bien gentil, moi j'ai fait des bonnes œuvres, j'ai rien fait de mal, on ne te demande pas ça, on te demande est-ce que tu as reçu Jésus dans ton cœur. Et on se retrouve à un endroit qui est, qu'est-ce qu'a coûté les souffrances de Jésus pour le salut d'un pécheur et qu'est-ce que tu as fait de ça? Est-ce que tu l'as reçu ou est-ce que tu l'as méprisé? Et devant la croix, moi j'ai réellement le sentiment d'être devant un infini d'amour. Et en même temps, j'y trouve tous les moyens, tous les motifs de pleurer, de m'humilier, de dire « Seigneur, mais tu es allé jusque-là ». Et il me semble que plus j'avance dans cette contemplation de la croix du Seigneur Jésus, pas le morceau de bois lui-même, vous comprenez bien, mais ce qu'elle représente dans le plan de Dieu me concernant, que je dis « Seigneur, mais tu m'as aimé jusque-là, jusque-là tu m'as aimé ». Et quand on prend la scène et qu'on roule le pain, dans ce symbole de le rompre, je sais bien, pas un de ces os ne sera rompu, on connaît tout ça. Mais il y a quelque part où il y a une image tellement simple, dans un symbole si fort. Faites ceci en mémoire de moi. Ça nous amène loin tout ça. Hein. Et puis vous savez que tout à l'heure, on va le voir. On va voir Jésus. Qu'est-ce que ça va être ça?
Je rajoute une chose, c'est que le t-shirt, il a été conçu pour se moquer de la croix. Unisexe, donc condamnation des sexes, texte sur textile. Et pour donner un exemple, hier sur le marché de Sanary, j'en ai vu un, j'ai même pas osé prendre la photo. C'était marqué appelle-moi Dieu, ça suffira.
L'homme qui se prend pour Dieu, qui s'élève à la place de Dieu. Moi, c'est vieux comme le monde, ça. Hein? Quoi, Dieu a dit? Non, c'est pas vrai. Dieu est tellement amour, il passera sur tout.
On dit que le peuple juif actuellement refuse de lire le chapitre 53 d'Ésaïe. On peut dire quelques mots?
Alors, j'ai lu une explication à ce sujet. Oui, ce n'est pas qu'il refuse de le lire, mais il applique à Israël persécuté. Donc, c'est un peu tiré par les cheveux, et c'est de la capillotractie. Hein. Bon, mais ce qu'il y a, c'est que plusieurs explications où ils disent « Mais ce serviteur-là qui a été le serviteur fidèle, vous voyez, 1948, Israël qui est revenu, donc c'est bien que Dieu reconnaît la fidélité, on peut toujours essayer de s'en persuader », disent « Mais en fin de compte, ce serviteur souffrant, ça a été Israël persécuté. » Et entre autres, ce qui s'est passé de la part des Allemands, des Russes, et des Chinois, et partout où on a trouvé des Juifs sur la Terre, ils ont tous subi à peu près tous le même sort. Et on en a trouvé partout, dans des endroits où on n'en aurait pas pensé en trouver. Et aujourd'hui, ce qui est beau, c'est de voir qu'avec les études d'ADN, on peut remonter les liens familiaux, et c'est très parlant. Mais ils attribuent ça, ben, quand on veut être aveuglé, si on ne veut pas croire en quelque chose, on essaie de se trouver des explications. Alors, il y en a que ça interpelle, donc ceux qui gênent, on l'enlève. Et puis, il y en a d'autres pour qui, oui, mais c'est l'Israël qui a été persécuté. Voilà. Bon, c'est pour ça que les approches des chrétiennes, des juifs messianiques, très très intéressantes. Ben, mais vous savez que ça fait 2 heures que vous me supportez, ce qui est déjà pas mal. Je vois petit Boer qui m'envoie des bisous, c'est gentil.
Alors, on va en rester là. Merci Michel.
Merci à vous.
Présentation.
Merci beaucoup Michel, avec ton bel accent.
Quel accent? J'ai pas d'accent, moi, c'est toi qui as un accent.
Merci Michel.
Guillaume.
Oui.
Est-ce qu'on pourrait avoir un temps de prière ensemble?
T'en prie.
Oui, notre Dieu, nous venons te rendre grâce de nous avoir accordé ces moments de partage avec cette réunion que tu as permise. Nous t'en bénissons. Qu'elle porte du fruit pour chacun, pour nous tous ensemble, pour nos familles, pour nos rassemblements. Nous t'en prions en te demandant d'agir et de faire que ce que nous avons entendu partager, oui, puisse nous faire du bien, grandir en nous. Et nous nous confions en toi pour le reste de cette journée, te remettant chacun dans ses circonstances. Et voilà, vraiment, nous voulons encore te bénir parce que tu attires les regards de notre cœur vers la personne de ce serviteur parfait, celui qui est venu, celui qui a dit « me voici, envoie-moi » et qui est venu, qui est allé de lieu en lieu faisant du bien, qui a enduré la croix, méprisant la honte par rapport à la joie qu'il avait devant lui. Et tu vois, à la croix, notre Dieu, nous avons pu contempler de loin et un peu, mais c'est la joie d'être sauvé maintenant qui nous remplit. Alors nous t'en rendons grâce et que cette joie nous remplisse. Parce qu'elle vient de toi, parce que cette paix, tu l'as acquise à la croix par ton sang versé. Et vraiment, nous sommes transportés et confondus de cette œuvre si puissante. Et nous voulons encore te prier pour ceux que nous connaissons, pour ceux qui entendent ta parole, pour ceux qui sont loin, ceux qui sont opposés, afin que l'Évangile puisse continuer à courir et qu'en ce jour de grâce, des âmes soient encore touchées à saluer notre Dieu. Nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen. Amen.
Demandons notre Dieu que par ton esprit, tu élèves nos âmes au-delà d'un simple sujet d'étude et de partage, mais quelque chose qui attache toujours plus nos cœurs à la personne du Seigneur Jésus, le connaître lui, dans la communion de ses souffrances et dans la puissance de sa résurrection. Notre Dieu, notre Père, garde ces choses dans une éternelle fraîcheur pour nos cœurs. Que nous ne soyons pas de ceux dont le cœur s'apesantit, s'habitue, s'endort. Oui, on connaît. Mais notre Dieu renouvelle dans nos cœurs chaque jour ce désir de venir au pied de la croix pour apprendre de ce mystère de l'amour qui s'est livré, qui s'est donné, pour sauver quelqu'un qui ne méritait que la mort et le jugement. Et tu veux faire de ce quelqu'un, comme nous, comme moi, un témoin de ta grâce, un monument de ta grâce. Un jour tu produiras dans ta maison, dans des places que Jésus nous a préparées, la preuve que dans toutes les circonstances de nos vies, c'était un dessein d'amour qui conduisait, dirigeait toutes choses. Et nous nous prosternons déjà devant toi dans la reconnaissance et dans l'adoration pour ce que tu as fait, ce que tu fais dans nos vies, tout ce en quoi tu veux les rendre conformes à l'image de ton Fils, peut-être inconnu, peut-être méprisé sur la terre. Pensons à ton Église persécutée, tout particulièrement notre Dieu. Et nous te demandons que tu bénisses ta parole parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu nous as gardé ta parole et que tu nous as aimés jusqu'au point de livrer celui qu'un père épargne par un qu'il le sert. Toi, tu ne l'as pas épargné. Mais rien ne peut nous enlever l'amour de Dieu qui est dans la face de Christ. Sois béni pour cela, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen.
Amen. Bien, eh bien, on souhaite à chacun une bonne journée. Je rappelle que donc ce soir à 20h, il y a donc Julien Chipano qui nous fait une présentation sur l'irritation, sur la colère. Il appelle « Fais-tu bien de t'irriter ?» Ce soir à 20h. Demain, il y a un petit changement. Sébastien devait présenter l'épître de Jude demain matin, mais il le fera demain soir à la demande d'Yvan qui va nous parler demain matin des héritages. Hein, donc demain matin, c'est Yvan Baumann sur les héritages. Demain soir, c'est Sébastien sur l'épître de Jude. Et Philippe Gourc nous parlera de la foi samedi matin. Bonne journée à tous, bon appétit à tous.
Merci, ça fait plaisir de vous voir.
Merci.
Merci Michel. Merci à tous. Merci.